Et les matins débutent avec le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Libye, la trêve entre les deux hommes forts du pays ne tient manifestement pas. Et c'est désormais, d'après l'ONU, des livraisons d'armes massives des deux côtés qui inspirent l'inquiétude. Matériel, munitions, véhicules blindés, conseillers militaires arrivent par avions entiers, à l'est comme à l'ouest. Précision à suivre de Nabila Hamel.
Le premier ministre chinois est arrivé à Wuhan. Aujourd'hui, il doit superviser les opérations de lutte contre la propagation du coronavirus qui a tué 80 personnes dans l'ensemble du pays, d'après un dernier rapport.
Et nous irons à Hong Kong dans ce journal. Hong Kong où la population demande une fermeture totale de la frontière pour les ressortissants de Chine continentale. Nous irons également en Italie où Matteo Salvini a perdu son pari de conquérir l'Émilie-Romagne. Nous écouterons le leader d'extrême droite qui a du mal à reconnaître sa défaite.
Et puis en France, quelle suite pour le mouvement social né de la contestation contre la réforme des retraites. Nous écouterons l'analyse de Jean-Marie Pernaud, politologue spécialiste des mouvements sociaux.
Et puis reportage à Marseille dans ce journal, Marseille où l'ère Jean-Claude Gaudin touche à sa fin. Après 25 ans de règne, le maire de la deuxième ville de France ne se représentera pas en mars. Dernier conseil municipal aujourd'hui. À 7h12, juste après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, travailler plus longtemps, est-ce compatible avec le marché de l'emploi des seniors? On posera les questions à un économiste, Stéphane Carcio.
À tout à l'heure, Guillaume. En Libye, la trêve ne tient pas. Négociée difficilement à Berlin la semaine dernière, elle n'a jamais vraiment existé sur le terrain entre les soutiens du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli et les fidèles du maréchal Haftar installé dans l'est libyen. Les combats sont toujours d'actualité, mais plus inquiétant, les livraisons d'armes d'un côté comme de l'autre se poursuivent et semblent s'intensifier. D'après un communiqué publié hier par la mission des Nations Unies pour la Libye, violant l'embargo sur les armes, théoriquement toujours en vigueur et laissant augurer d'une reprise prochaine et probable des hostilités. Les précisions de Nabila Hamel.
Des armes, des véhicules blindés, des conseillers, des combattants sont arrivés en Libye ces derniers jours par avion dans l'ouest comme dans l'est en Cyrénaïque, soit dans chaque clan en guerre. C'est non seulement une violation flagrante et persistante de l'embargo sur les armes décrété en 2011, mais aussi un coup de canif donné aux engagements pris par les pays concernés lors de la conférence du 19 janvier à Berlin, car si l'on en croit la mission de l'ONU sur place, qui ne cite pas de nom, les fournisseurs d'armes sont des pays qui ont participé à cette conférence. L'Allemagne se dit préoccupée, mais s'accroche à ce qui lui paraît le plus important, parvenir à un cessez-le-feu stable. Il s'agit surtout de ne pas compromettre la tenue dans les prochains jours d'un comité militaire mixte dont les représentants ont été désignés par les deux parties. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est actuellement déchirée entre deux pouvoirs rivaux, celui du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU et celui du maréchal Haftar. Le premier est représenté par Fayez al-Sarraj et soutenu par le Qatar et surtout la Turquie dont le président Erdogan était hier chez le voisin algérien pour notamment évoquer ce conflit. Quant à l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, engagé depuis avril dernier dans une offensive pour la prise de la capitale Tripoli, il a pour alliés les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et la Russie. Ce qui est inexplicable est que ces pays ont récemment promis de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit, tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires.
Nabila Hamel. En Syrie, les forces armées du régime de Bachar el-Assad sont désormais aux portes de Maharet al-Nouman, deuxième ville de la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. Tenue par les djihadistes de Tahrir al-Sham, cette ville est un objectif stratégique majeur pour les Syriens et leurs alliés russes, en dépit du cessez-le-feu annoncé en janvier par Moscou. Reportage à 8h dans le journal de Clara Le Coq Réal. Benjamin Netanyahou est attendu à la Maison-Blanche aujourd'hui par Donald Trump, avec qui il doit demain présenter un plan de paix historique pour le Proche-Orient. Plan de paix rejeté par avance et avec force par les Palestiniens qui l'estiment déjà mort.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. En Chine, un nouveau décompte des victimes du coronavirus apparu en décembre à Wuhan fait état désormais de 76 morts pour la seule province du Hubei dans l'est du pays.
Province dont les 60 millions d'habitants sont placés en quarantaine et où Li Keqiang, le premier ministre chinois, est en déplacement aujourd'hui. Il vient superviser les efforts du régime pour tenter de contenir cette épidémie. À l'échelle du pays tout entier, on compte plus de 2700 personnes contaminées. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé est attendu à Pékin aujourd'hui pour faire le point, alors que la capacité de propagation du virus semble s'être renforcée dans les derniers jours, ce qui fait craindre une extension rapide de l'épidémie aux autorités des régions voisines. À Hong Kong, par exemple, l'inquiétude monte. Sur place, pour France Culture, Florence de Changy.
Alors que le huitième cas de patient porteur du nouveau coronavirus identifié à Hong Kong est à nouveau un voyageur originaire du Hubei, la fermeture des frontières aux visiteurs en provenance de cette province a été accueillie avec soulagement par la population, même si pour beaucoup, elle ne suffit pas. Plusieurs syndicats et certains partis d'opposition réclament une fermeture des frontières de Hong Kong à tous les Chinois continentaux, sans limite de temps. Et ce, jusqu'à ce que l'épidémie soit contrôlée du côté chinois. Dimanche soir, des confrontations violentes ont eu lieu entre police et manifestants hongkongais qui ont saccagé un nouveau développement immobilier dans la ville frontière de Fanling, où le gouvernement avait envisagé de loger les personnels des hôpitaux qui ne souhaitaient pas rentrer chez eux pour minimiser le risque de contamination. Les résidents du quartier estimaient quant à eux l'endroit très mal choisi, étant donné la densité et la proximité d'écoles. Toutes les écoles vont d'ailleurs rester fermées jusqu'au 17 février et la plupart des autres festivités prévues pendant les vacances du Nouvel An, concerts et feux d'artifice ont été annulés.
Florence de Changy, sur le front de cette épidémie, la France, où pour l'instant 3 cas seulement ont été diagnostiqués de manière certaine et sans caractère de gravité, la France annonce par la voix de sa ministre de la Santé l'organisation d'un plan de rapatriement de ses ressortissants installés à Wuhan dans le courant de la semaine. En Italie, Matteo Salvini a perdu son pari en Émilie-Romagne. Le candidat de son parti, la Ligue d'extrême droite, a été battu lors d'une élection régionale par le Parti démocrate, emmené par le sortant Stefano Bonaccini. Cette élection avait valeur de test national pour l'ancien ministre de l'Intérieur qui envisageait de faire chuter la gauche dans cette région pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Matteo Salvini, qui s'était engagé personnellement dans cette campagne et qui a eu du mal à reconnaître sa défaite cette nuit.
Avere una partita aperta.
Avoir eu un match ouvert, permettez-moi de vous dire que pour moi c'est une grande émotion qu'après 70 ans en Émilie-Romagne, il y ait eu un match. Depuis que les élections existent en Émilie-Romagne, il n'y a jamais eu plus de 3 minutes de commentaire des résultats électoraux, car le match était fini avant même d'avoir commencé. Mais nous y voilà. Je suis fier de tout ce que notre équipe a fait, de la réponse qu'elle a donnée. Il y a une chose qui saute aux yeux. L'un des deux alliés du gouvernement, je pense au mouvement 5 étoiles, disparaît de la région Émilie-Romagne et presque de la Calabre, qui sont deux des régions où le mouvement 5 étoiles est né. Il est donc clair que quelque chose va changer demain à Rome.
Le mouvement 5 étoiles est nato, quindi è evidente che qualcosa domani a Roma cambierà.
Matteo Salvini, on revient sur les résultats de cette élection régionale en Émilie-Romagne qui a très fortement mobilisé les électeurs dans la revue de presse internationale tout à l'heure à 7h35 avec Camille Magnard. 4 jours après le Forum mondial sur l'Holocauste, on commémore aujourd'hui les 75 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, libéré par l'armée rouge à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Cérémonie officielle cet après-midi en Pologne en présence d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement. En France, le nombre d'actes racistes, xénophobe et antisémite a très fortement augmenté en 2019 avec une hausse calculée à plus de 130%. C'est plus qu'un doublement. Bilan publié par le ministère de l'Intérieur hier soir. 1142 faits ont été comptabilisés. Il s'agit pour l'essentiel de menaces, ce qui n'enlève rien à leur gravité.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel.
Toujours en France, l'Opéra de Paris a rouvert ses portes ce week-end. Des représentations ont eu lieu samedi et dimanche à Bastille et à Garnier, mais l'intersyndicale au sein de l'institution ne veut pas pour autant baisser les bras dans son combat contre la réforme des retraites. La mobilisation se poursuivra sous de nouvelles formes, comme dans bien d'autres secteurs, les transports par exemple, où face à la détermination du gouvernement, les syndicats choisissent d'agir via des actions plus ponctuelles, parfois plus dur aussi, ce qui est finalement une façon de s'adapter à une nouvelle donne politique. Écoutez les explications de Jean-Marie Pernaud, politologue et spécialiste des mouvements sociaux.
On a des gouvernements qui, au fil du temps, répondent de moins en moins à ces demandes sociales. On a le sentiment même qu'ils construisent leur légitimité sur leur capacité à résister aux mouvements sociaux. Donc il faut bien s'adapter. Si les gouvernements ne cèdent pas au bout de 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, eh ben, il faut s'installer sur des durées plus longues et voir ce que ça donne. Enfin, il fut un temps où on n'avait pas forcément besoin comme ça de se mobiliser pendant des semaines et des mois pour que on daigne prendre en considération le fait que telle ou telle réforme n'était pas acceptée. D'autres sondages à l'appui, d'ailleurs, on voit une opinion publique qui est quand même plus que réservée sur les projets annoncés, donc bah, il faut durer. Tout ceci peut aussi tourner un jour à la violence. Si les canaux traditionnels qui permettent de drainer le mécontentement ne fonctionnent pas, si les acteurs de la négociation collective sont totalement délaissés, méprisés ou instrumentalisés, alors on peut voir le mouvement, on l'avait vu un peu avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, prendre d'autres voies plus radicales avec des gens qui, en langage courant, pètent les plombs. Tout le mouvement de civilisation qu'ont connu les rapports sociaux avec la naissance des syndicats, de la négociation collective, tout ça est fait pour drainer la part de tension et de violence qu'il y a dans les rapports sociaux. Si tout cela est délaissé au profit d'un gouvernement seul décideur, quoi qu'il se passe et quel que soit l'état du mouvement social, il y a un vrai risque.
Le politologue Jean-Marie Pernaud, joint par Diane Berger. Les élections municipales J-48 aujourd'hui avant le premier tour qui aura lieu le 15 mars à Paris. Cédric Villani maintient sa candidature dissidente. Il l'a réaffirmé hier à l'issue pourtant d'un entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron qui a échoué à le convaincre de rejoindre la candidature de Benjamin Griveaux. À Marseille maintenant, ambiance et sentiment ambivalent aujourd'hui à l'occasion du dernier conseil municipal de la mandature actuelle, qui est aussi le 198e et dernier conseil de Jean-Claude Gaudin qui se retire de la vie politique. Olivier Martoc.
L'ordre du jour est chargé, pas moins de 150 délibérations, parmi lesquelles deux qui illustrent la fin difficile de cette quatrième mandature, le dossier de la rénovation des écoles et celui de l'habitat indigne. Dans l'hémicycle, sa majorité fera bloc, l'opposition se déchaînera, mais une fois achevées les passes d'armes, tous les élus ont prévu de rendre un hommage appuyé à cet homme qui n'aura vécu que pour et par la politique. Benoît Payan, président du groupe socialiste.
Qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est une partie de l'histoire de Marseille qui s'arrête. Je me suis toujours opposé à la politique de Jean-Claude Gaudin. Pour autant, je respecte ce qu'il est, cet homme que rien ne prédestinait à devenir maire de Marseille. Ce fils d'ouvrier, de femme de ménage que la droite rejetait, qui met des dizaines et des dizaines d'années à devenir l'homme qu'il est devenu. C'est à ça qu'on rend hommage ce matin. Et je veux dépasser ce que je suis, dépasser la politique, dépasser les clivages pour essayer de lui rendre l'hommage qu'il mérite.
Une page d'histoire se tourne ce matin à Marseille, un moment difficile pour le premier concerné.
Je vais avoir un choc, je vais un peu souffler, avoir un peu moins de stress, mais il est clair que tout ça va me manquer puisque, ma foi, ça a été ma vie, c'est ma vie.
Une vie qu'il va désormais raconter. Jean-Claude Gaudin publiera ses mémoires à la rentrée.
Olivier Martoc, une perturbation pluvieuse traversera le pays aujourd'hui d'ouest en est. De la neige est attendue en altitude partout ailleurs. Des averses fréquentes avec parfois un caractère orageux. Température en légère hausse aujourd'hui, Guillaume Erner.
Merci Benoît Bouscarelli.